Bonsoir, c'est aujourd'hui que Félix Tshisekedi a été officiellement investi président de la République démocratique du Congo. Il a pu donc pouvoir vivre cette cérémonie à partir du Palais de la Nation à Kinshasa. Vous êtes donc nombreux à avoir vécu cette réalité. Comment avez-vous vécu ces événements à partir de là où vous étiez? C'est la question ce soir. Et pour évoquer cette question, nous recevons ce soir Moïla Tshiembe, professeur d'université et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Moïla Tshiembe, bonsoir.
Bonsoir.
Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste et coordonnateur de la dynamique des politiques de la RDC. Et enfin, Israël Moutala, journaliste et analyste politique et économique. Israël Moutala, bonsoir.
Bonsoir.
Mesdames et messieurs, bonsoir à tous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Ça y est, Félix Tshisekedi désormais officiellement investi président de la République démocratique du Congo. La cérémonie de cette investiture a eu lieu ce jeudi après-midi au Palais de la Nation à Kinshasa et cet événement a également servi de remise et reprise du pouvoir de l'État par le président sortant Joseph Kabila au nouvel élu. En République démocratique du Congo, c'est la première fois qu'une passation pacifique du pouvoir a lieu depuis son indépendance en 1960. Dans son discours à cette occasion, le cinquième président de la RDC a annoncé notamment la libération des prochains jours de tous les prisonniers politiques, le rétablissement de l'autorité de l'État ainsi que la pacification du territoire national par l'éradication des groupes armés. On écoute Félix Tshisekedi dans un extrait tiré de la retransmission de la radio-télévision nationale.
Outre nos citoyens civils, les premiers garants de notre cohésion nationale sont nos forces de défense et de sécurité qui assurent un rôle primordial dans la protection et l'intégrité du territoire ainsi que dans celle des personnes et de leurs biens. Nous leur offrirons un cadre de travail digne de leur mission pour en faire une institution véritablement républicaine. Nos forces de défense et de sécurité doivent être porteuses du dialogue entre civils et leurs différents corps de métier. La gestion de nos forces de défense et de sécurité doit se faire sans la moindre discrimination ethnique ou sociale. Chers compatriotes, nous appelons les détenteurs de l'autorité à tous les échelons de notre pays, au respect strict et infaillible des droits des personnes et de leurs biens, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, en leur demandant de réaliser leur mission dans le cadre légal. Dans ce contexte, le gouvernement initiera une campagne de sensibilisation de tous les agents de l'État sur leurs responsabilités vis-à-vis de nos populations. Ainsi, le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques, d'opinion ou assimilés sur l'ensemble du territoire national en vue de leur prochaine libération.
Moïla Tshiembe, professeur d'université et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France, comment avez-vous trouvé l'investiture du nouveau président et que pensez-vous de son discours d'investiture justement?
Ben, disons que les images du Palais de la Nation que nous avons regardé aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a senti le corps frémir, même à milieu de Kinshasa, pour dire que c'est au-delà même du mot historique, c'est énorme, on n'a pas d'explication. La seule chose que l'on puisse dire est de se poser une question. À quoi sert cette alternance magnifique entre un président et un candidat de l'opposition? Alors, si on s'arrête seulement à reconnaître que le président Kabila a rendu un droit, c'est-à-dire en respectant la Constitution, on a déjà fait un pas, mais ce pas n'est pas suffisant, à mon avis. Alors, si l'on veut regarder les choses en face, il faut bien se demander à quoi sert cette alternance. Cette alternance, c'est-à-dire au service de quel idéal, c'est-à-dire la question de l'intérêt national.
Professeur Moïla,
cette alternance.
Professeur Moïla, permettez-moi d'intervenir à ce niveau, pas pour vous couper, mais est-ce que vous pouvez vous mettre peut-être dans une position qui permette une meilleure communication, parce que votre message passe un peu entrecoupé. Peut-être vous mettre à l'extérieur si jamais vous êtes plutôt à l'intérieur. Oui, professeur Moïla Tchiembe, la régie va essayer de vous retrouver. Entre-temps, nous avons dans ces studios deux autres débatteurs ce soir. Commençons par Christian Moleka. Vous êtes analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Votre analyse de l'investiture de Félix Tshisekedi et son discours de circonstance.
Merci pour la question. Je pense que d'un premier jet, on peut dire que l'événement était fortement symbolique. On a vu le passage de Fagnon entre le président sortant et son successeur, le change de siège et la prise d'armes devant l'armée. Je crois qu'on avait toute la symbolique qu'il fallait pour apporter ce que tous les Congolais attendaient depuis longtemps, ce passage pacifique du pouvoir, mais également un discours qui avait beaucoup de volonté d'unité, de mots de rassemblement, quelques rappels historiques pour essayer de refonder cette cohésion nationale-là. Il y avait presque un discours volontariste, quoique un peu long, mais on peut dire que la journée a quand même symboliquement réuni tout ce qu'il fallait pour asseoir cette alternance que tout le monde souhaitait.
Alors, Tshisekedi promet donc d'être rassembleur, comme vous le disiez tantôt, de travailler à la libération des prisonniers politiques, de combattre la corruption, l'insécurité et les groupes armés dans tout le pays, et enfin de rétablir l'autorité de l'État et le respect des droits de l'homme. Tout cela est-il faisable ou simplement un discours politique, voire démagogique?
Bon, la politique a un temps long qui est le temps de l'exécution. Entre les ambitions, les intentions et la concrétisation, il y a toujours un décalage. Maintenant, tout partira, de mon point de vue, du choix qu'il fera de collaborateur. Le plus grand défi, de mon point de vue, pour le nouveau président, c'est le choix de collaborateur qu'il devra se faire pour l'accompagner dans sa vision. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'UDPS est un parti qui a fait presque 37 ans dans l'opposition. Et donc, aujourd'hui, le nouveau défi, c'est le défi de gouvernance. Il faut qu'ils arrivent très rapidement à se comporter en parti de gouvernement, donc un parti capable d'émobiliser les compétences en interne ou en externe, s'il faut le trouver, pour répondre à ces défis de gouvernance qui ne correspondent pas à la logique du combat politique qu'on a mené pendant 38 ans. Et donc ça, c'est le premier défi qu'il devra d'abord réussir. Et c'est partant de l'équipe qu'il va s'entourer qu'il pourra alors mettre en œuvre sa feuille de route.
Apparemment, le président Tshisekedi, hein, nous ne confirmons pas, mais nous avons l'impression qu'il n'aura pas tout le boulevard dont il a besoin justement pour choisir ses collaborateurs. Il y aura peut-être une cohabitation à l'horizon. Tout semble s'être, comme vous le disiez, hein, bien passé, même si certains dysfonctionnements protocolaires ont tout de même été signalés, notamment dans l'encadrement des foules.
Exactement.
Mais arrêtons-nous surtout sur le malaise qui a interrompu le discours d'investiture de Félix Tshisekedi. Vous n'étiez pas sur place, vous m'aviez dit ça en début d'émission. Mmh. Mais selon vous, vous pensez que qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, je crois comprendre, hein, en voyant les images, que son gilet, hein, que Kevlar qu'il mettait sous sa chemise, ça va apparemment l'étouffer. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et à un moment donné, on a vu, lorsqu'il a repris la parole, qu'il avait apparemment ôté son gilet verbal. Donc je pense qu'il y a ça, il y a l'émotion, il y a la ferveur et l'étouffement lié forcément à son gilet verbal, qui ne semble apparemment n'était pas à sa taille et donc qu'il a un peu étouffé.
Alors, professeur Moïla Tshiembe, nous allons revenir à vous. Nous savons que vous avez retrouvé la bonne connexion, le temps de terminer l'entretien avec Christian Moleka. C'est vrai que Christian Moleka, malgré tout, le président Tshisekedi a continué et terminé son discours, mais y a-t-il, selon vous, à craindre pour sa santé, ou c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, juste un malaise qui est définitivement passé?
Bon, j'ai constaté qu'on avait écourté le programme, parce que si vous avez suivi le protocole d'État au début, il aurait fallu que les chefs coutumiers apportent des symboles de l'autorité coutumière à remettre au nouveau chef d'État. Cette partie de la cérémonie ne s'est pas déroulée, on a dû écouter. Est-ce que c'est écouté parce qu'on a vu qu'il fallait un peu relâcher pour le nouveau président, ou est-ce que ça a été écourté parce qu'on estimait que voilà, le temps était déjà très long. C'est, je crois que c'est dans les jours à venir qu'on verra forcément quelles sont les retombées, mais à ce stade, on a vu qu'il s'était relevé, qu'il a continué son discours, et puis voilà.
Alors, avec cette absence de remise des symboles coutumiers au nouveau président, peut-on considérer que, malgré tout, tout est fait, parce qu'il a prêté serment, on lui a remis les autres attributs du pouvoir, il a prononcé son discours, il a manqué cela. Est-ce que, pour couper court à la spéculation, est-ce que cette absence va jouer quelque chose? On sait qu'on est en Afrique, les coutumes sont importantes.
Je crois que la transmission des symboles coutumières n'est que de l'ordre symbolique. Hein, pour montrer que l'autorité et le chef de l'État est au-dessus de l'autorité coutumière, mais le côté légal, constitutionnel du processus de passage de pouvoir a été respecté, donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun débat.
Professeur Moïla Tchiembe, vous nous avez certainement entendu parler tout à l'heure de cette espèce de programme que le nouveau président s'est lui-même donné. Il se veut rassembleur, il promet de travailler pour la libération des prisonniers, il veut combattre la corruption, l'insécurité, et il veut rétablir l'autorité de l'État.
Oui, le programme a été entendu, mais je pense qu'il y a des choses qui sont dans le domaine du faisable. Par exemple, libérer les prisonniers, monsieur le président de la République, demain, son gouvernement formé, il peut donner des instructions et ça peut aller vite. Par exemple, libérer les radios et les télévisions de l'opposition, ça peut aller vite, il suffit de signer ou de prendre une décision, ça peut partir. Alors, la question qui me paraît assez compliquée, mais qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire, à mon avis, une priorité de priorité, c'est la question qu'il a invoquée en disant qu'il souhaitait en finir avec éradiquer les groupes armés, c'est-à-dire la question de la sécurité à l'Est, qui est une question primordiale. Et elle est primordiale, pourquoi? Parce qu'elle relève du pouvoir régalien du président. Donc là, on peut aller vite, parce que le président de la République est le chef des armées. Alors, dans la mesure où il a pointé du doigt où là ça fait mal, on peut se souvenir que pendant la campagne électorale, il a été question, où la promesse a été faite de pouvoir installer le QG de FARDC ou à Goma ou à Beni. En matière de stratégie, cela veut dire faire le choix de la stratégie de projection des forces. Ce n'est pas nécessaire de ramener à Goma ou à Beni le quartier général des FARDC, mais ce qu'il est possible de faire, c'est de doter les FARDC d'une stratégie militaire de projection des forces. C'est-à-dire, étant donné que la capitale Kinshasa est à l'extérieur du pays, et quasiment à 1000 lieues de Goma ou de Beni, alors c'est projeter les forces, c'est permettre à l'armée de constituer les forces sur, c'est-à-dire de déposer ou d'envoyer les forces sur le champ de la bataille, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme et les violences qui vont avec, permettre ce que nous appelons, ce qu'on appelle le commandement interarmé, c'est-à-dire permettre soit à Goma, soit à Beni, que le commandant des forces sur place puisse coupler, additionner ou mutualiser les forces, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. Cette coordination, qui n'existe pas encore dans les FARDC, si elle est mise sur pied, elle permettrait effectivement au commandant de la troisième zone de défense d'avoir ses moyens disponibles et en les mutualisant, de voir comment les utiliser au meilleur des intérêts du pays, c'est-à-dire de cette lutte contre les groupes armés. Et alors, dans le même ordre d'idée, il faut moderniser les armées, l'armée de terre, l'armée de mer et la marine, pour faire en sorte que lorsque la menace est identifiée, que l'ensemble des forces soient mobilisées pour faire face à cette tuerie qui dure depuis longtemps et qui donne à nos compatriotes de ces régions l'idée qu'ils sont abandonnés, que la République ne pense pas à eux. Alors, troisième élément, puisque ça ne relève que du président, il y a lieu de faire une coordination systématique du commandement suprême qui détient le commandement opératif et le commandement tactique, de telle sorte que les ordres qu'il aura donnés jour et nuit, nuit et jour, puissent parvenir réellement au commandement sur place. La mobilisation des forces et la dernière idée, c'est la modernisation de la condition militaire. Le fait que les militaires doivent manger, doivent être logés, leur sol doit être réévalué, ils doivent s'entraîner, ils doivent avoir droit à la santé. Si ces choses-là sont améliorées dans un avenir prévisible, 6 mois, 1 an, alors le président de la République, dans ses pouvoirs régaliens, peut répondre à nos compatriotes de l'Est pour dire « on a commencé ». La guerre, on sait quand elle commence, on ne sait jamais quand elle finit, mais au moins, on aura le mérite de la commencer et de la commencer systématiquement en mobilisant tous les moyens, y compris le renseignement militaire.
Merci, professeur Moïla. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Israël Muntala, journaliste, analyste politique et économique. Un peu la même question que vos co-débatteurs. Comment avez-vous analysé cette première alternance du pouvoir au sommet de l'État et les engagements du nouveau président investi? Détiendra-t-il, selon vous? En a-t-il les moyens?
Merci de la question. D'abord, je souligne encore une fois le caractère historique de cette passation pacifique de pouvoir. Ça n'était jamais arrivé dans notre pays et il faut le souligner. Généralement, en Afrique et en RDC, quel est le sort qui est réservé à celui qui détient le pouvoir suprême? C'est soit la mort brutale. On l'a vu avec Laurent Désiré Kabila, assassiné au palais de Marbre, en plein exercice de ses fonctions présidentielles. On a vu, c'est soit aussi
l'exil.
On l'a vu avec Mobutu, contraint après 32 ans de règne de quitter le pays en catastrophe. On l'a vu, c'est aussi dans d'autres pays africains ou même ici en RDC, c'est l'embastillement, l'emprisonnement. Là, on l'a vu aussi avec Patrice Emery Lumumba, parce qu'on était dans un régime parlementaire, c'était lui le vrai détenteur du pouvoir d'État. Donc, on a vu qu'il a été arrêté, puis assassiné, lâchement. Et donc, voilà le sort qui revient souvent aux détenteurs du pouvoir pacifique, du pouvoir d'État. Ces violences amènent des troubles de la gouvernance, ce qui fait que les énergies sont dissipées, les énergies sont gaspillées. Au lieu de regarder dans la même direction, au lieu d'avoir des institutions stables, qui sont impréalables justement pour bâtir un État efficace, un État prospère, un État au service de l'intérêt général. Quand ces préalables ne sont pas réunis, on tourne en rond, on n'avance pas suffisamment dans la direction de la réduction de la pauvreté. Et donc, voilà pourquoi il faut souligner l'importance de l'événement d'aujourd'hui. Ce n'est pas la panacée, mais c'est un préalable important pour jeter les bases d'une société forte. C'est-à-dire, dès qu'on a un consensus sur la stabilité des institutions, et même... Là aussi, c'est discutable parce qu'il y a quelques contestations. On ne va pas les ignorer, mais toutefois, l'essentiel aujourd'hui est qu'il y a eu quand même une passation pacifique de pouvoir et il faut vraiment le souligner en lettres d'or.
Mais est-ce que cette passation pacifique de pouvoir ne risque pas de se compliquer dans les tout prochains jours? On sait que le pouvoir en RDC va probablement connaître une cohabitation.
Non, on ne s'achemine pas vers une cohabitation. On s'achemine vers une coalition. Ça veut dire aujourd'hui, le chef de l'État est soulagé et on l'a vu à la mine qu'il a affichée aujourd'hui, il a changé de look. Donc il n'est plus en rébellion, il est en harmonie parce que son rêve de voir les forces qu'il appelle progressistes se liguer contre les forces qu'il appelle impérialistes s'est concrétisé. Aujourd'hui, FCC, la famille politique dont il est l'autorité morale, est en alliance avec CASH, pour le changement de l'actuel président. Et donc, vous avez une alliance des forces dites progressistes contre, entre guillemets, les forces impérialistes qui a été érigée. Et donc, par rapport à ça, de ce côté-là, il n'y aura pas de remous. Donc, on s'achemine vers une grande coalition.
Alors, le président Tshisekedi, dans son discours programme, on peut l'appeler comme ça, il parle du rétablissement de l'État sur toute l'étendue du pays. Il parle de l'unité nationale, de la cohabitation pacifique, aussi de faire une bonne économie. Mais les Congolais réclament un meilleur social depuis de nombreuses années. Mais le président Tshisekedi n'en a pas parlé prioritairement dans son discours. Se sait-il déjà incapable de vaincre ce chantier?
Je crois qu'il en a parlé. Il a parlé du progrès social, il a parlé de l'éducation et de la santé. Il a parlé dans un chapitre. Il est revenu sur ça également. Écoutez, j'étais au Palais de la Nation. J'ai vu ces milliers de Congolais qui sont déplacés, qui n'avaient pour la plupart jamais mis les pieds là-bas, les combattants de l'UDPS. J'ai vu cette ferveur. J'ai vu plusieurs personnes s'évanouir d'émotion, s'évanouir parce qu'il y avait une forte chaleur, s'évanouir d'étouffement et tout ça. Mais j'ai vu une population pauvre. J'ai vu une population qui n'a que ses rêves. Et donc c'était une grande responsabilité. Et cette population a rappelé à Félix Tshisekedi les promesses. Il ne faut jamais s'écarter de la voie que papa avait tracée. Papa avait dit le peuple d'abord. Il faut travailler pour le peuple. Donc ce peuple a besoin d'éducation, a besoin de santé et tout ça. Mais c'est des défis énormes qu'un budget de 5 milliards ne va pas justement couvrir. Donc il faut absolument aujourd'hui qu'on trouve une alternance en termes de financement pour lancer des grands travaux d'infrastructure et tout ça. Parce qu'on ne va pas s'appuyer sur le budget national pour couvrir ces besoins, parce que ce sont des besoins immédiats. Donc il n'y aura pas de période de grâce. Et donc, même s'ils colmatent la corruption, même s'ils colmatent les collages de recettes, il n'y aura pas suffisamment dans l'assiette nationale pour qu'on puisse redistribuer et réduire la pauvreté dans un délai raisonnable d'ici un quinquennat. Et donc, les défis sont énormes. Mais sur le plan politique, on a vu quand même Félix qui est rassembleur, qui a rendu hommage à Martin Fayulu, qui a rendu hommage à Laurent Désiré Kabila, à Mobutu, et tout ça, c'est très bon. Et pour rebondir sur les propos du professeur Mouilati Yembe, écoutez, aujourd'hui déjà, deux radios et deux chaînes de télévision de l'opposition sont ouvertes. Djoua de Muyambo et Nyota de Moïse Katumbi émettent déjà et ils ont retransmis même la cérémonie d'investiture. Et donc je pense qu'il a déjà lancé des signes forts d'ouverture politique et surtout sa promesse de recenser les prisonniers politiques afin de les libérer.
Merci Israël Moutala. Nous allons essayer avec Christian Mouleka de récupérer son temps d'antenne et nous allons le faire à travers cette question, Christian Mouleka, concernant les présidents invités à cette investiture. Finalement, il n'a eu qu'un seul, le président kényan, sur la bonne quinzaine attendue. Peut-on considérer que ce fut un fiasco?
Je pense que le contexte qui a précédé l'investiture peut justifier en partie l'absence de ces chefs d'État voisins. On a eu ce rétropédalage de l'Union africaine, cette position ambiguë de quelques pays voisins sur les résultats des élections. Et donc, lorsqu'au niveau diplomatique, un pays comme l'Afrique du Sud vous envoie un ministre de PME, ou lorsque l'Égypte vous envoie un ministre des Eaux, ou qu'on vous envoie un ambassadeur, ça veut dire que diplomatiquement, il y a quelque chose à régler. Donc, il y a encore un travail à fournir pour le nouveau pouvoir, en termes d'offensive diplomatique, pour regagner la confiance des partenaires, qui n'est pas encore totalement rassurée après tous les couacs qu'on a eu autour des résultats définitifs.
Mais justement, le pouvoir finissant a peut-être pensé bien faire de n'inviter que ceux qui sont les plus proches, hein, les présidents africains, et ils sont nombreux à avoir voulu un moment ou un autre venir à la République démocratique du Congo. Pourquoi beaucoup ne sont-ils pas venus eux-mêmes?
Je pense que venir pour un tel événement, il faut être invité déjà. Il faut déjà être invité. Il faut que le protocole d'État lance des invitations. Moi, je ne sais pas dire à qui on a déposé des invitations. Non, mais je constate seulement qu'on nous a parlé d'une dizaine de chefs d'État, mais
presque tous africains.
Presque tous africains et tous n'ont presque pas répondu. Et donc, il y a un travail diplomatique à faire. D'autant plus que les contextes, comme je le dis, quand vous prenez la position de l'Union africaine avant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, quand vous prenez la position des quelques États africains, on sentait qu'il y avait des asymétries entre Kinshasa et ses pays voisins, et donc ça peut expliquer cette absence. Donc c'est un nouveau pouvoir, aujourd'hui, de relancer sa machine diplomatique pour regagner la confiance des partenaires.
Merci. Avant de passer la parole aux auditeurs, Israël Moutala, vous vouliez rebondir très rapidement.
Juste dire que par rapport à l'influence des chefs d'État et des gouvernements, il faut d'abord dire qu'il ne s'agissait pas de chefs d'État d'abord. Il s'agissait d'une délégation de chefs d'État ou de gouvernement. Et ensuite, il faut se rappeler aussi que le chef de l'État actuel n'était pas très enclin à participer à d'autres investitures. Il déléguait. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la loi de la réciprocité, donc certains pays aussi ne se sont pas déplacés au plus haut niveau, parce que le chef de l'État actuel lui-même, lorsqu'il y avait des investitures comme ça, il ne se déplaçait pas personnellement, il déléguait. Une autre explication, c'était le flottement sur la date. Les autres ont demandé un peu plus de temps samedi, alors que la cérémonie, finalement, il y a eu tergiversation, on a arrêté finalement la date de jeudi. Ça n'a pas permis une bonne... ceci explique aussi cela.
Merci. Professeur Moïla Tchiembe, pour vous, ce commentaire qui nous vient de Butembo.
Je suis Fatoulé Moutéké de Butembo. La passation civilisée du pouvoir entre le président Sonka Joseph Kabila et André Félix Tshisekedi entérine les élections comme seul mode d'accession au pouvoir. Ceci étant, seule la passation pacifique du pouvoir ne suffit pas. Est-ce à savoir comment ce pouvoir doit s'exercer? À mon avis, deux défis majeurs attendent le nouveau président. La mise en œuvre de ce programme concurremment à celui du gouvernement qui, au regard du score aux législatives, sera dirigé par le FEC. Et la crise de légitimité due à la controverse autour de son élection.
Professeur Boïla Tshiembe, cet auditeur mentionne déjà une espèce de crise de légitimité. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, il ne s'agit pas d'un problème de légitimité. Sa grille de lecture est bonne, mais c'est la conclusion qui ne l'est pas. Le système politique congolais, c'est un système de double majorité. Il y a une majorité présidentielle et une majorité parlementaire. Le président de la République peut toujours être président, respecter les pouvoirs que lui donne la Constitution, mais il n'a pas prise sur le gouvernement, si le gouvernement ne relève pas de sa majorité. On peut avoir une majorité parlementaire qui est différente de la majorité présidentielle, c'est le cas. Alors c'est pour cette raison que le président Kabila a utilisé le terme qui me paraît probablement le meilleur. Il a parlé de la coalition des forces pour le Congo fort et prospère. La coalition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il part du postulat que la majorité présidentielle, le président de la République et sa majorité, la concomitance, le fait qu'il y a une similitarité, les deux majorités sont arrivées au même moment. Et l'espérance est dans chaque majorité pour le changement. Alors, le terme le plus même au sens de l'intérêt supérieur du Congo, c'est la coalition, au sens que chaque majorité doit dépasser ses propres contradictions, ses propres intérêts, pour regarder l'intérêt supérieur du Congo, c'est-à-dire regarder dans la même direction et mettre en œuvre le changement que tous les Congolais demandent de leur vœu. Alors, si on va vers la coalition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on part du postulat que il faut chercher les meilleurs des Congolais, à la fois dans la majorité présidentielle et dans la majorité parlementaire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le président Kabila avait dit, ça fait rigoler beaucoup du monde, qu'il cherchait 15 oiseaux rares qui lui permettraient de pouvoir bien gouverner. Mais en réalité, il y a le problème de gouvernance dans ce pays. On a des gens diplômés, qualifiés, etc. Lorsqu'on regarde l'appréciation du travail des ministres, qu'ils soient licenciés, docteurs, etc., le résultat est décevant. Donc, il va falloir aller chercher les meilleurs des Congolais dans chaque camp pour que demain, le changement que tous les Congolais ont exprimé, que ce changement-là puisse voir le jour, à mon avis, c'est ça l'essentiel. Et pour y arriver, il ne faudrait pas rester dans la logique constitutionnelle de séparation de pouvoir net, parce que ça supposerait que le président ne se contenterait que de ce pouvoir d'arbitre, et laisserait le champ libre au gouvernement. Or, pour que les choses marchent, c'est le gouvernement qui met en œuvre la politique de la nation. Mais cette politique, même si elle est, élaborée en commun accord dans certains domaines comme la défense, comme la politique étrangère avec le président, mais en réalité, c'est le gouvernement qui a la main. Alors, si on est dans une optique de coalition, ça suppose qu'il y a harmonisation, il y a discussion mutuelle pour que dans un camp comme dans l'autre, chacun puisse dépasser ses propres contradictions et chercher le meilleur pour l'avenir du Congo et les Congolais.
Moïla Tchiembé, on a entendu plusieurs fois dans son discours le nouveau président abondamment rendre hommage au président sortant, Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi en a fait un peu trop?
Non, il n'en a pas fait assez trop. C'est une question d'éducation, c'est une question de politesse, c'est une question de rapport de force. Il a bien compris que le président Kabila, s'il n'avait pas respecté la Constitution, on n'en serait pas là. Et si le président Kabila avait tenu coûte que coûte à faire gagner M. Chadari, on n'en serait pas là. Donc, il y a aussi la reconnaissance des réalités. Vous savez, son père, le grand leader Maximo, etc., ne nous avait pas habitués sur l'intelligence politique au sens stratégique du terme. Seul, on ne peut pas gagner. Pour gagner, il faut être avec les autres. C'est pour ça qu'il a tendu la main à M. Kamere.
Merci.
Et aujourd'hui, il comprend bien que cette opposition de majorité parlementaire et majorité présidentielle, s'il veut mettre en œuvre son programme,
merci,
le programme qu'il a présenté au pays, il est obligé de composer avec le pouvoir sortant.
Merci, professeur Moïla Tshiembé. Nous serons avec vous pour les moments de conclusion. Christian Moleka, nous allons plutôt écouter ce commentaire qui nous vient de Bukavu.
Éric César, depuis Bukavu. En tant que Congolais, je ne peux que me réjouir de ce moment historique qui connaît notre pays, la RDC. Cette journée va rester gravée dans les annales des générations présentes ainsi que futures. Qui, comme le disait Lumumba, nos enfants auront à la raconter à leurs enfants. Cependant, ce moment historique est un aboutissement d'un long processus qui a connu la participation de tous les Congolais, dont certains en ont même laissé leur vie. Notre souhait est de voir cet élan et poursuivre pendant les 5, 10 et 15 années à venir afin de pérenniser cet acquis.
Alors, Christian Moleka, cet auditeur est un peu comme vous, hein, il parle de historique, mais comme vous avez entendu certainement plusieurs fois dans le discours du président entrant, il a abondamment souhaité la paix, une bonne cohabitation pacifique. Est-ce qu'il avait en tête quelque chose de particulier qui lui faisait dire cela?
Je pense que il y a un autre mot qu'il a beaucoup évoqué, c'est réconciliation, se réconcilier, un Congo réconcilié. Parce que faut pas se voiler la face, nous avons tous vécu comment les élections se sont déroulées et comment l'une des parties au processus, notamment Martin Fayulu, a contesté les résultats. Et donc il y a une frange de l'opinion congolaise qui à ce jour, même si elle est silencieuse, ne se trouve pas, je dirais, ne s'identifie pas dans le nouveau leadership et donc il faudrait ouvrir. Et c'est pourquoi dans ses propositions, le président Tshisekedi a également parlé d'un forum sur la réconciliation. Il faut se dire la vérité en face, il y a une fracture réelle liée au processus électoral, parce que la démocratie, ce n'est pas seulement la victoire du gagnant, mais c'est également la reconnaissance des perdants. C'est la partie que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous avons une partie qui a gagné, une victoire que nous avons célébrée, mais nous n'avons pas une partie perdante qui a reconnu la victoire. Et il faut travailler à ce que nous parvenions à la fin, comme dans toutes les démocraties, à avoir cet appel symbolique du perdant vers le gagnant et cet appel vers ses militants à reconnaître le pouvoir qui a gagné. C'est cela qui amène la paix du cœur. Et donc, travailler à la réconciliation, il faut donc continuer à travailler, à ouvrir les portes pour favoriser cette réconciliation. Et oui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Moi, j'aimerais même que nous puissions avoir peut-être un mausolée plus tard pour reconnaître tous ces morts inconnus pour le combat de la démocratie. Depuis maintenant plus de 32 ans que les gens se battent pour qu'on parvienne à l'alternance. Il y a eu beaucoup de morts, il faudrait qu'on pense un jour à élever un mémorial pour tous ces gens-là inconnus qui auraient participé à ce combat-là. Et je partage donc son point de vue, il faut effectivement travailler à atteindre cette réconciliation.
Et vous pensez que le président Félix Tshisekedi a bien fait notamment de citer le nom du deuxième arrivant, hein, selon l'ordre des résultats des élections, c'est-à-dire M. Fayulu, à qui il a adressé ses amitiés. Vous pensez que ça a été intéressant ou peut-être intelligent, comme l'avait dit, vient de le dire le professeur Moïla tout à l'heure,
évoqué? Je pense que c'était davantage vers l'opinion et vers la population que ce message a été lancé, pas vers les acteurs. Je pense qu'il s'agissait de montrer à la frange de l'opinion qui identifie à l'autre leader que l'animosité, que la violence qui a caractérisé la campagne. Il ne faut pas oublier que nous avons une campagne très violente hein, avec des mots très durs, parfois des attaques physiques. Sur l'Internet, on a eu des moments vraiment de tirs fratricides entre l'opposition. Et il faut transcender ça, il faut tourner la page et il fallait donc lancer cet appel vers cette frange de l'opinion qui s'identifie à Fayoulou à revenir dans le barcaï. C'est d'ailleurs le cas avec Chadari, il a fait appel à Chadari, il a fait appel à Caméré. Je pense que c'était vraiment des signes nécessaires aujourd'hui pour rassembler les gens.
Alors dans le cadre de son souci de cohabitation, en son temps, on a vu le président Joseph Kabila, vainqueur des élections, aller vers Jean-Pierre Bemba, le perdant. Conseilleriez-vous au président Félix Tshisekedi de faire le premier pas, d'aller voir son frère Martin Fayoulou pour peut-être éventuellement ne pas seulement faire un discours vers l'opinion, mais de vraiment toucher l'homme et espérer un retour dans la réconciliation?
Bon, dans l'ordre du symbolique, ce serait peut-être important, mais moi je pense qu'il faut davantage répondre aux besoins des populations, de ce qu'attendent les Congolais, c'est-à-dire le social. Il faudrait que les vraies attentes populaires, parce que que ce soit la campagne de Fayoulou ou de Tshisekedi, tous ont porté presque le rejet de la population, de la gouvernance passée. C'était un message clair et fort que le peuple congolais ne voulait plus la gouvernance passée, on voulait aujourd'hui des politiques tournées vers les citoyens. Je crois que la meilleure réponse qu'on donnerait aujourd'hui, ce serait effectivement de mettre en place des politiques qui soient tournées vers l'intérêt des citoyens. Maintenant, oui, en termes de symbolique, c'est important d'avoir des images où ils peuvent se saluer pour apaiser les cœurs. Mais il faut aller plus que dans les symboles, il faut aller au fond des problèmes, il faut répondre aux vraies attentes des Congolais. Par exemple, moi, j'ai vu qu'il a dans ses propositions déjà ouvert des pistes en termes de réformes. Il faut creuser ces réformes-là, il faut faire une réforme fiscale telle qu'il a proposé, il faudrait aller plus loin, mettre en œuvre les réformes d'assurance, les réformes sur le marché de l'électricité qui existent déjà, pour permettre à ce que l'État puisse très rapidement disposer des moyens pour mettre en place les politiques que vous souhaitez.
Merci Christian Moleka. Israël Muntala, pour vous, nous allons écouter cette réflexion de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. En dépit des hauts et les bas et le suspense autour de ce long processus électoral en RDC, l'événement historique de passation pacifique du pouvoir dans mon pays depuis l'indépendance est à saluer. D'autant plus que certains Congolais et même la communauté internationale ne s'attendaient à un tel événement. Donc désormais, la RDC a un ancien président vivant et cela ouvre la voie à un nouvel ère politique pour notre pays. Et le peuple congolais attend beaucoup du nouveau président investi, surtout sur le plan sécuritaire et social, car la RDC a des potentialités énormes pour son développement.
Alors Israël Muntala, on sait que la RDC a eu comme habitude de compter sur les minerais hein, pour pouvoir enflouer son budget. Et en ce moment-ci, on voit qu'un des principaux minerais de la République démocratique du Congo qui est très convoité, le cobalt, connaît une chute. Est-ce que la RDC pourra atteindre ses objectifs? Le président Tshisekedi pourra atteindre son programme aujourd'hui avec cette réalité d'un minerai important qui connaît une difficulté?
Merci de la question. Je suis d'accord avec Patrick Attalis et il salue le transfert pacifique du pouvoir. C'est historique, en effet. Il dit aussi qu'il y a beaucoup d'attentes sur le président Fatih, notamment en termes social et tout ça. Et c'est vrai tout ça. Mais comme vous l'avez si bien remarqué, nous avons une économie qui est dépendante de ressources naturelles. Et donc, nous dépendons de ce qu'on appelle les termes d'échange. Voilà. Donc, les termes de l'échange, ça veut dire qu'aujourd'hui, il suffit que sur le prix de marché de matières premières, qu'il y ait fluctuation à la baisse et que nos ressources propres s'en ressentent fortement. Et donc, il faut absolument renverser le paradigme. Et ça n'arrive pas en un jour. Donc, il faudrait absolument avoir suffisamment d'énergie pour donner de la valeur ajoutée à nos minéraux. Mais il y a un grand chantier, Moleka l'a évoqué tout à l'heure, c'est le chantier fiscal. C'est vrai qu'il a dit que le président Félix Tshisekedi a dit qu'il va justement simplifier les procédures administratives et tout ça, c'est vrai. Mais absolument, il faut d'abord changer les mentalités. Donc, c'est d'abord les mentalités du peuple congolais qu'il faut transformer. Que chacun se pose la question de savoir quel est son poids fiscal. Est-ce que nous déclarons nos impôts comme il se doit? Il faudrait absolument que chacun d'abord apporte quelque chose. Sinon, parce que nous sommes très pauvres, qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 milliards de dollars? Mais si aujourd'hui chacun, justement, paye des impôts tels qu'on doit se le payer, là, justement, il y aura une révolution. Les revenus locatifs, on ne les paye pas. Nos domestiques, nos bonnes, nos chauffeurs ne sont pas déclarés. Personne ne paye les impôts. Nous gonflons nos charges dans nos PME pour ne pas déclarer suffisamment d'impôts, tout ça. C'est toute une mentalité. Mais pour que cette mentalité, justement, que les citoyens partagent cette mentalité, il faut que les gouvernants fassent aussi la transparence sur leur patrimoine, sur leurs émoluments. Il faut qu'ils créent cette confiance-là, parce que dans l'imaginaire populaire, les hommes politiques, c'est des voleurs, ils vivent sous les yeux du peuple congolais. Donc, il faut créer cette relation de confiance pour que chacun maintenant se dise, voilà, pour qu'il y ait des bonnes routes, pour qu'il y ait des écoles, pour qu'il y ait des hôpitaux, comme en Occident, il faut que chacun contribue aux charges publiques en payant l'impôt, en payant son dû. Et donc, il faut qu'on crée cette relation-là. C'est avec les ressources fiscales qu'on va justement, rembourser l'investissement, les investissements pour les routes et tout ça. Mais tant que chacun de nous ne prendra pas conscience de son poids fiscal, on va tourner en rond, on va changer Félix dans 5 ans, l'autre qui viendra aussi, on n'aura pas les moyens justement de transformer de manière radicale notre société. C'est le grand défi pour moi de ce quinquennat, c'est le changement de mentalité, c'est une nouvelle mentalité. Il y a l'alternance, oui, on donne l'argent pour travailler pour l'intérêt général. Le pouvoir a une seule finalité, c'est l'intérêt général. Mais il a plusieurs branches, il y a l'Assemblée pour voter les lois, il y a l'exécutif pour les exécuter, il y a la justice pour trancher les litiges et tout ça. Mais la finalité, c'est quoi? C'est l'intérêt général. Donc c'est la pauvreté qui va menacer notre cohésion. C'est la pauvreté qui va menacer notre démocratie. Donc, on peut mettre Fayoulou, on peut mettre Tshisekedi, on peut mettre Katumbi. Mais tant que chacun de nous ne sera pas conscient du rôle qu'il doit jouer dans la société, qu'il n'aura pas la culture de la citoyenneté, on ne va pas se développer.
Alors, Israël Montala, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de conclusion, vous avez justement appuyé sur le fait que les mentalités doivent évoluer et l'une des problématiques en RDC, c'est que les gens justement ont bénéficié de largesse des systèmes passés et ils ne sont pas toujours acquittés de leurs devoirs, notamment les taxes et tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que le président Tshisekedi, j'imagine qu'il en a conscience, mais avez-vous l'impression qu'il va s'attaquer à ce problème parce que c'est une des entrées des recettes pour le budget?
En tout cas, je l'interpelle de manière solennelle. Ça veut dire que quand on dit que pour ce pays, pour le réformer, il faut un large consensus. Je pense que, parce que quand il y a un large consensus, vous avez des bases sociologiques, vous avez le peuple qui peut suivre des réformes courageuses. Mais il faut une base sociologique, il faut un consensus large. Donc voilà pourquoi je suis d'accord pour qu'il y ait un gouvernement de large union nationale, pour que toutes les forces, je serai favorable, parce que la victoire d'aujourd'hui, c'est aussi la victoire du CLC, du Comité laïque de catholique, c'est aussi la victoire de la SENCO, c'est aussi la victoire des martyrs de l'UDPS, c'est aussi la victoire de Rossi Chimanga, c'est aussi la victoire de Lucha, de Filimbi, c'est aussi la victoire, ne l'oublions pas, n'ayons pas la mémoire courte, du G7, qui a porté la première stockade, justement, dans la majorité présidentielle, c'est aussi la victoire du chef de l'État, qui a résisté à certaines forces. Donc voilà, c'est une victoire qui a plusieurs pairs, et donc capitalisons ce moment historique pour essayer de jeter les nouveaux jalons d'un Congo plus fort et qui crée des richesses, qui stabilise l'Afrique et qui est au cœur des enjeux environnementaux et qui relève ses défis.
Merci Israël Muntala. Christian Moleka, votre mot de conclusion, l'un des chantiers, justement, le protocole étant passé, les forêts étant passées, c'est le concret maintenant, et l'un des concrets, c'est notamment justement changer les mentalités pour que tous ensemble, le peuple aidant, l'État ait les moyens de rassembler les finances pour atteindre cet objectif. Est-ce que cet objectif est possible dans un court terme?
C'est possible si le nouveau président se mettait à appliquer ce que je dirais la politique de l'impunité. Parce que l'un des échecs des régimes précédents, c'est qu'on a vraiment fait de l'impunité une sorte de qualité dans le pays. Et on détourne de l'argent public, on vole, on pille les caisses de l'État, il n'y a pas de sanctions. Nous devons vraiment avoir une politique des sanctions, et ça doit commencer dans son entourage, pour que ceux qui prennent au pouvoir ne disent pas, voilà, c'est notre tour à nous d'avoir des châteaux, de bâtir des maisons. Il faut qu'on sente qu'il y a une rigueur, qu'il y a une volonté d'impunité, pour que les autres suivent, l'administration, la police, et ainsi de suite, et que nous puissions alors avoir cette réforme-là. Il n'y aura pas de réforme s'il n'y a pas une impulsion forte qui repose sur l'impunité.
Alors, professeur Boyela Tiembe, votre mot de la fin, comment pensez-vous que le nouveau président peut faire pour mobiliser suffisamment des fonds et atteindre ses objectifs?
Ben, il n'y a pas de secret pour faire le programme qu'il est en train d'annoncer. Il faut commencer par la création des richesses, parce que la création des richesses est la condition du progrès social. Donc, il faut mobiliser les Congolais, appeler les Congolais à aller au travail.
Merci, professeur Moïla Tchiembe. Polidor Basunga, Guimat et Alain Hiroum, l'équipe La Monde, m'ont aidé à préparer cette émission. Donna Madimba Simon à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci, au revoir.